Donc, qu'est-ce qu'on attend de la baisse? Alors, et alors, et alors? Donc, par principe, on ne sait pas à quoi ça va ressembler, forcément, d'autant plus qu'il y a d'autres phénomènes structurels qui sont des conditions économiques dont on ne sait pas ce qu'elles vont être, dont on ne sait pas comment elles vont se répartir, l'évolution du chômage, par exemple, qu'on peut anticiper dans les années à venir, on ne sait pas comment ça va se répartir sur le territoire. Donc, l'incertitude, elle est non seulement dans la durée, mais elle est dans l'espace. Et elle est aussi dans les volumes et les valeurs. On ne sait absolument pas quelle sera son ampleur. Donc sur le foncier, forcément, la conséquence, c'est que comme sur l'immobilier, il y a d'incertitudes et que c'est finalement un domaine qu'on suit assez bien, sur le foncier, il y a encore plus d'incertitudes, d'autant plus qu'il y a encore moins de connaissances. On sait encore moins ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années sur le foncier. Les seules données qu'on a qui sont vraiment inscrites dans le temps, c'est les données SAFER. Ça, on arrive à le foncier agricole, on le suit depuis 1980, voire même depuis plus longtemps pour certaines SAFER. Et c'est la seule information qu'on a. Mais le problème, c'est que les SAFER n'observent ce foncier que tant qu'il est agricole. Et le jour où le notaire considère qu'il n'est pas agricole, il ne va pas notifier la DIA à la SAFER. Donc la vente, il ne va pas la notifier à la SAFER. Et la mutation sort du champ de connaissance des affaires, donc on n'arrive pas à avoir cette information. On pourra parler de cet accès, de cette question des données et des efforts que l'État et la DGI pourraient faire pour produire plus de transparence. Bon, voilà. Alors la conclusion sur cette histoire de cycle, c'est qu'il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que le pouvoir d'achat des ménages remonte. Alors c'est de nouveau une courbe de Frigide. Donc vous voyez que en miroir, si les valeurs sont montées très haut, forcément le pouvoir d'achat des ménages sur tout le territoire tout le territoire national est allé très bas. Et aujourd'hui, on commence déjà à observer la remontée de ce pouvoir d'achat. Alors là, j'ai une demi-heure pour vous parler d'aménagement. Parce que si on parle de raisonnement économique dans une collectivité publique, il faut savoir quel rôle on joue en tant que collectivité dans ce jeu, dans cette production immobilière et foncière, et quel est le pouvoir que la collectivité a dans ces différents cycles. Ça, c'est un triangle de base que tout acteur, toute collectivité ou même opérateur qui travaille sur ce domaine-là a dans la tête. Le foncier, la production du foncier constructible pour l'aménagement, c'est le résultat d'un jeu à trois qui implique d'une part la collectivité, d'autre part un opérateur qui va produire des mètres carrés et un propriétaire. Alors la caractéristique en France, c'est que donc le propriétaire, il va vendre des mètres carrés de terrain. Imaginons la situation classique périurbaine, il va vendre ce qu'on appelle un foncier brut, c'est-à-dire un foncier pas aménagé, à l'usage antérieur, ça peut se faire aussi dans les terrains industriels de cœur de ville. Et en fait, la caractéristique en France, c'est que le propriétaire, il sort du jeu dès le début. J'ai récemment réuni, récemment réuni des EPF et des agglomérations, et c'est très intéressant de les entendre dire que tout ce qu'il faut, la seule chose à faire, c'est de sortir le propriétaire le plus vite possible du jeu. C'est vraiment inscrit très fortement dans les mentalités, parce que le propriétaire n'est pas apte à jouer. En Espagne, on considère que le propriétaire, il est apte à jouer. Et on lui donne un conseil et on lui dit, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu mets ton terrain dans un pot commun qui est une genre de société ad hoc. Donc ton terrain, c'est un des éléments du capital de cette société. Tu as un conseil pour vérifier que tes intérêts sont correctement défendus. Le conseil est payé par la collectivité. Et tu rentres dans un jeu à trois entre la collectivité et l'opérateur, avec la collectivité et l'opérateur, où on va essayer de faire en sorte que l'opération qui sorte serve les intérêts de tout le monde. La collectivité serve son projet d'aménagement, le propriétaire lui apporte un rendement et un retour sur capital qui soit suffisamment correct, et l'opérateur, évidemment, lui permet de vendre des mètres carrés de terrain. En France, ce n'est pas le cas, on achète le terrain au propriétaire. Alors, qui achète ? c'est, là vous ne le voyez pas tout de suite, ça peut être le promoteur, mais dans le cas de l'aménagement, le principe c'est que celui qui achète les terrains à l'usage antérieur avant qu'il y ait des droits à bâtir, c'est plutôt l'aménageur. C'est la définition française de l'aménagement, c'est que l'aménageur, alors épaulé éventuellement par l'EPF, va créer, va acheter le terrain avant de créer les droits à bâtir. Donc ce que fait cet aménageur, il peut être privé, il négocie les droits à bâtir auprès de la collectivité et il va réaliser les équipements qui vont à eux de rendre le terrain constructible juridiquement et constructible physiquement. Ça crée du foncier aménagé. L'aménageur, une fois que ce foncier est aménagé, il va vendre des droits à bâtir, donc la fameuse charge foncière que je vous ai décrite tout à l'heure, et il va la vendre soit à un acquéreur final, donc ça c'est le cas du lotisseur, qui, après avoir loti, obtenu le permis de lotir, va le vendre à l'acquéreur final sous forme de lot à bâtir, ou à un promoteur, c'est le cas de l'aménageur, île de Nantes, la plaine Saint-Denis qu'on visitera demain, enfin pleine Seine, pleine commune dont le directeur participera à la table ronde demain après-midi. Il vend des droits à bâtir au promoteur qui va se charger de déposer le permis de construire, de réaliser les dernières viabilisations, de construire, et qui va transformer le foncier en immobilier qui lui sera vendu à un acquéreur final, habitant ou entreprise. Cette chaîne-là, alors évidemment il y a des variations, comme je vous le disais, le promoteur il peut être en contact direct avec le propriétaire, mais en fait, quand il est en contact direct avec le propriétaire, comme je vous le disais, c'est que le terrain est déjà constructible, donc il fait un raisonnement avec une constructibilité existante, et il évite d'acheter son terrain tant que la constructibilité n'est pas acquise. Parce que acheter un terrain qui n'est pas purgé du recours, avec un permis qui n'est pas purgé du recours des tiers, ça peut coûter très très cher en intérêt financier. Alors, la collectivité là-dedans, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fixe un projet d'aménagement. Avant tout, elle fixe un projet d'aménagement. Et à partir de là, elle va fixer les règles du jeu au travers d'une politique foncière qui va permettre qui est une articulation entre des interventions directes sur le foncier qui permet de développer des règles de droit qui va donner de la valeur à ce foncier ou rendre possible ce projet d'aménagement et qui va fixer une règle financière. Alors, cette fameuse politique foncière, comme je le disais, il y a trois volets. On a eu tendance à croire qu'une politique foncière, c'est acheter des terrains. Alors parce qu'il y a, c'est vrai, cette vieille tradition du foncier municipal qui existe encore dans certains secteurs de la municipalisation des sols, qu'on a beaucoup à admirer en Hollande. On se dit une politique foncière, c'est du foncier qui est acheté par la collectivité, qui est entièrement maîtrisé, elle fait ce qu'elle veut, elle est propriétaire, elle se substitue au propriétaire, et à partir de là, elle fait ce qu'elle veut, elle va fixer des règles, et elle va fixer des règles de droit, mais de constructibilité, mais aussi des règles économiques, donc récupération de la plus-value, dispositifs financiers comme le programme d'aménagement d'ensemble ou la participation pour voirie et réseau, ou éventuellement même un bilan de ZAC. Donc si elle n'achète pas de foncier, elle a quand même d'autres moyens. D'ailleurs, on l'a vu sur les... sur le principe, c'est que finalement la commune, la petite commune française, c'est idéal, parce que même sans acheter des terrains, avec simplement une intervention réglementaire qui va interdire, on réalise le projet d'aménagement sans problème. Là, le projet, c'est de ne rien aménager, ou alors d'aménager des espaces vides, mais en tout cas, l'intervention réglementaire elle va permettre de réaliser ce projet-là. Et la particularité du code de l'urbanisme en France, c'est que c'est avant tout un interdit. On interdit de faire. Le droit de propriété est inviolable et sacré, mais comme c'est impossible, c'est intenable, on a passé le code de l'urbanisme français, et forcément, structurellement, là, pour limiter ce droit de propriété, au lieu d'inciter à faire. Donc la piste qui était ouverte par Eric de dire « il serait peut-être temps d'inciter à faire », alors c'est ce qui se fait en Allemagne, par exemple, où l'obligation de faire, associée au dispositif fiscal que Jérôme Grange dont il parlait sur le Danemark, l'obligation de faire plus la taxation de la constructibilité, ça fait que ça sort, forcément. C'est pour ça qu'on commence à parler d'un minimum constructible, par exemple, dans la réforme du code de l'urbanisme. Le seul problème, c'est que sur les interventions réglementaires, la fameuse intervention réglementaire, on a malgré tout des règles qui se sont développées en s'appuyant sur un code de l'urbanisme et même en étant encore plus restrictif que le code de l'urbanisme. Juste une petite... Par exemple, sur le secteur de la première couronne urbaine, des banlieues, si vous regardez le nombre d'articles d'un document d'urbanisme et que vous comparez avec ce qui est le minimum obligatoire du code de l'urbanisme, la plupart du temps, vous constatez que la règle est largement plus restrictive que ce que le code de l'urbanisme permettait de faire. Donc, on accuse le code de l'urbanisme, mais en fait, quand on a vraiment une envie de faire, déjà rien qu'en assouplissant les règles, on peut favoriser aussi des modes de développement qui peuvent répondre à la demande. Et l'intervention économique, on en a parlé tout à l'heure. Donc, l'aménagement, c'est quoi? C'est d'abord organiser un espace selon un projet de développement qui prend en compte les usages du territoire qu'on a décidé de développer. Mais il y a une chose importante à savoir, c'est qu'à droit constant sur l'espace, l'aménagement physique du foncier n'est pas de l'exclusivité de la sphère publique. Alors, c'est vrai que demain, dans le débat, vous aurez des personnes à la table ronde qui ne seront pas forcément tout à fait d'accord avec cette idée que on dit l'aménagement, c'est public. Mais quand on parle de l'aménagement, c'est public, c'est l'attribution de droits à construire qui est public. Mais la réalisation physique d'un aménagement, ça, n'importe quel privé qui a des bonnes relations avec une entreprise de BTP bien faite, sait faire la construction, sait réaliser un quartier ou un îlot, il n'y a aucun problème à ça. Donc l'aménagement physique n'est pas forcément public. Ce qui est public, c'est la décision de donner des droits et de distribuer les droits sur les territoires qui a une conséquence sur l'usage particulier de chaque terrain. Alors, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'il y a derrière cet appareil qui finalement existe, avec des acteurs qui ont des intérêts bien comptés, des acteurs publics qui savent, qui ont un certain nombre d'outillages? Quels sont les enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui? C'est un, de savoir répondre à une consommation d'espace énorme, on va le voir. C'est deux, pouvoir réorganiser le pouvoir en prenant en compte une décentralisation qui est quand même de plus en plus avancée, la constitution d'intercommunalités qui, on l'a vu, finalement, ont su forger leur identité au cours des dix dernières années, et une redéfinition du rôle de l'État. La seule question qui reste totalement ouverte, c'est est-ce qu'on a un appareil de production en aménagement qui est adapté à ces nouveaux enjeux économiques qui sont à la fois, qui sont ceux que je dis plus haut, mais aussi les enjeux économiques, la connexion avec les phénomènes mondiaux qui est beaucoup plus forte aujourd'hui, on l'a vu, que par le passé. Alors, juste sur la consommation d'espace, j'ai fait là une petite comparaison des évolutions de consommation d'espace, des évolutions comparées entre population, mètre carré de logement par habitant, nombre de logements et surface totale des sols. Et ce que vous voyez, c'est que pour une croissance entre 92 et 2003 de la population de 4%, la surface totale des sols occupés par le logement, lui, s'est accrue de 25%. Donc là, on a une société qui s'enrichit, et l'espace, c'est le signe de cet enrichissement. J'aime bien parler de la crise du divorce en Angleterre, à Londres. Il y a moins de divorces. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se payer de logement pour une famille. Donc il y a moins de divorces. C'est parce qu'on s'enrichit qu'on décohabite. C'est assez choquant, mais c'est la réalité. Et cette évolution, l'enrichissement de nos sociétés, a généré une consommation d'espace toujours plus croissante, à tel point que, par exemple, on a vu sur des secteurs extrêmement beaux dans les Alpes, la Saffer-Rhône-Alpes m'a parlé d'une transaction, d'un chalet totalement pourri, un avocat parisien qui l'achète 1 million, donc il a juste le chalet et la vue, évidemment, sur les montagnes, et il réinjecte 1 million de travaux pour que ce chalet soit habitable. 2 millions en 2006. Donc cette demande d'espace, elle attire de l'argent, Et cette demande d'espace, elle doit être prise en compte dans les politiques publiques. Et le phénomène de périurbanisation, à mon sens, un signe très fort de ça. Donc, la conséquence de cette demande d'espace, surtout ce qui a intégré, et ce que beaucoup d'élus n'ont pas intégré, quand on leur sort ces chiffres-là, ça les secoue en général, c'est qu'en 30 ans, il faut augmenter de moitié, donc en une génération, il faut augmenter de moitié pour une commune, elle doit doubler, non, elle doit multiplier, enfin augmenter de moitié sa surface urbanisée pour pouvoir loger la même population. C'est-à-dire pour garder 10 000 habitants, il faut construire 50% de mètres carrés en plus en 30 ans. Ce qui est 30 ans, c'est l'horizon d'un SCOT. Donc pas de croissance démographique. C'est pour maintenir cette population. Et ça, ce chiffre-là, il est assez peu utilisé. On parle beaucoup de décohabitation, mais il suffit de dire ça pour dire, même si vous construisez, c'est juste pour les habitants qui sont déjà sur votre territoire. C'est même pas pour accueillir des étrangers malvenus, des pauvres et autres. Non, c'est juste pour loger les gens sur votre territoire.
Oui. Ça, c'était vraiment les surfaces habitables ou c'est aussi des aménagements publics nécessaires
pour... Non, là, je vous parle des mètres carrés construits. Je vous dis juste, pour un quartier, pour qu'un quartier garde sa population, il faut juste augmenter de 50% sa constructibilité. Donc ça veut dire que sur une parcelle où il y a une maison individuelle qui a été construite dans les années 60, il faudrait rendre possible, la transformation de la cabane du fond du jardin pour le transformer en bureau, par exemple. Exemple. Et ça, la plupart du temps, c'est pas faisable. Hein. Il faudrait assouplir les règles de mitoyenneté. Il faudrait, dans certains secteurs à Arcachon, l'agglomération arcachonnaise, on a analysé le document d'urbanisme, il y a une crise du logement absolument terrible. Ils n'arrivent pas à loger leur population parce qu'il y a effectivement une concurrence. Il y a un marché qui est un marché parisien sur le bassin d'Arcachon. Et rien que l'analyse des documents d'urbanisme, on leur disait, mais pourquoi vous... Ils nous demandaient, on veut créer un EPF, qu'est-ce qu'on doit faire? On leur disait, commencez par réviser votre document d'urbanisme, parce que déjà, une règle de constructibilité minimale de 1500 m² de terrain pour rendre constructible votre terrain, déjà, vous êtes sûr que votre population ne va pas pouvoir se loger. Rien que ça. Et alors, sur l'Aquitaine, c'est frappant parce qu'on sort d'une étude sur l'Aquitaine, c'est que l'Aquitaine se vit rurale, donc forcément, une maison individuelle, c'est 1500 m² de terrain. A-t-on idée de construire sur 400 m². Mais là où c'est possible, on voit que ça se fait. Donc ça veut dire que c'est faisable. Mais il faut le rendre faisable. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ce manque de conscience de ce phénomène massif, c'est que la production volontaire maîtrisée par les collectivités ou les opérateurs qui auraient été nécessaires au cours des 10 dernières années, elle s'est faite dans le diffus, là où c'était faisable. Et là où la collectivité aurait pu jouer un rôle d'acteur économique qui met massivement des droits à bâtir sur le marché foncier, il ne s'est rien passé. Cette courbe, elle est désespérément plate. Alors il y a un petit pic, là, vous voyez, en 89-90, parce que il y a eu une production de ZAC très importante, mais là, regardez, entre 2000 et 2005, et enfin, même d'ailleurs le pic des années 90, on ne peut pas, même pas appeler ça un pic, c'est comme tout se passe comme si les collectivités et les opérateurs n'avaient pas conscience que eux, ils produisent une matière qui est le droit à bâtir. Et ils ont des moyens pour ça, mais ils ne le font pas. 100 000 euros en moyenne, 100 000 logements par an en moyenne, depuis 81, depuis aussi longtemps qu'on le sait. Alors qu'il y a des variations de production qui sont bien plus fortes. La conséquence, c'est ce qu'a décrit Eric tout à l'heure, c'est qu'en 2006, un tiers des communes de moins de 5000 habitants accueillaient la création de nouveaux logements, alors qu'en 1994, c'était un cinquième de ces communes. Voilà. Alors, la façon d'y répondre... la donnée de base, c'est que c'est la commune qui a tous les pouvoirs et elle est un peu épaulée par un EPCI, mais tout se fait dans une négociation extrême. Un peu épaulée par les départements et les régions qui n'ont pas forcément, comme on l'a vu, on va le voir même, je vous montrerai les cartes, des politiques très coordonnées en matière d'aménagement. Les régions étant particulièrement absentes sur la question de l'aménagement depuis les 15 dernières années, c'est très très frappant, hein. Je travaille beaucoup avec elles en ce moment et je suis frappée de voir qu'il n'y a aucune vision de l'espace et de la conséquence de l'arrivée de financements régionaux sur l'espace. C'est étonnant. Et l'État, ben, l'État il, comme il se redéfinit, comme ses pouvoirs sont en pleine redéfinition, il ne sait pas trop, il négocie beaucoup, même quand il a un pouvoir d'intervention très fort sur les opérations d'intérêt national, en fait, le pouvoir du maire est très fort et tout se négocie encore plus maintenant avec la fameuse commune qui est la clé de tout, parce que la commune concentre tous les pouvoirs de production foncière qu'on a vu tout de suite. Voilà, alors quelques cartes. Bon, alors là, c'est sur l'Aquitaine. C'est un complément de ce que vous montrez, Eric. Là, c'est la construction neuve de logements pour les communes de moins de 2000 habitants en région Aquitaine, sur trois périodes. La première, c'est 80-88. Là, c'est 89-96. Et là, c'est entre 97 et 2004. Alors, vous voyez deux zones, la Gironde. La Gironde est devenue, comme le conseil, un peu comme le département du Rhône, c'est le territoire, quasiment le territoire métropolitain de l'agglomération bordelaise. Et puis il y a un phénomène en Aquitaine, par exemple, c'est que des territoires très ruraux, comme le sud des Landes ou tout le Pays basque et le Pays basque est assez urbain, mais même le Béarn sont des territoires qui se sont urbanisés de façon considérable, précisément. Parce qu'il y a eu des décisions politiques magnifiques qui ont rendu ce territoire merveilleusement accessible. Donc ça, c'est des isochrones une heure. Donc c'est le fameux mental que les habitants ont dans la tête. Une heure du centre de Bordeaux, une heure du centre de Bayonne, une heure du centre de Pau. Et vous voyez que le territoire est extrêmement couvert. Et regardez, alors ça c'est autour de Périgueux, la Dordogne. Aujourd'hui, le département de la Dordogne, qui a dans notre esprit serait plutôt rural, eh bien 400 communes ont en cours un document, un PLU, même pas une carte communale. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une conscience que l'urbanisation doit être organisée par les collectivités. Et alors en rouge, c'est les EPCI, et le petit bord rouge, et vous voyez que ça, c'est le taux de couverture de l'emploi salarié. Donc, vous voyez que, par exemple, quand vous allez en Aquitaine, les Landes, c'est connu comme le territoire peu dense et rural. Enfin, c'est dans l'esprit des gens, il est rural, mais il n'est pas rural. Vous voyez qu'il y a un taux d'emploi absolument considérable sur les Landes. Et rien qu'en regardant ça, on peut considérer qu'au moment où il y a un enrichissement, où il y a un développement immobilier, il y a des chances qu'il y ait de la production immobilière. Le tout, c'est de savoir le lire et l'anticiper. Et des opérateurs mal encadrés, parce que là, c'est la dernière exploitation de citadelle qu'on a faite sur le territoire aquitain. Donc on a une urbanisation absolument partout. Les opérateurs, ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient, là où ils voulaient. Heureusement, il y avait des routes qui pouvaient vendre dans le prix de l'immobilier qu'ils vendaient. Donc il n'y avait aucun problème pour faire cette production et répondre à cette demande. Et surtout, une ségrégation socio-spatiale de plus en plus forte, avec des territoires qui se spécialisent dans les populations pauvres et des territoires qui se spécialisent dans les populations riches, avec des centres urbains qui sont caractérisés par un écart croissant entre très riches et très pauvres. Et cette question-là de ségrégation socio-spatiale, seule une politique de logement social liée avec une politique d'offre d'emploi pour des salariés, d'ailleurs on verra demain le commentaire sur Pleine Commune, est extrêmement orienté là-dessus, c'est comment produire les logements et les emplois pour maintenir des populations aux endroits dans les agglomérations. Voilà, conclusion, c'est l'aménagement, ce sont des choix politiques qui ont des conséquences économiques, et tant que cette culture économique n'est pas dans les esprits de l'ensemble des acteurs du secteur public, que faire de l'économie, c'est pas forcément laisser le marché libre courir à sa guise, c'est au contraire connaître les dynamiques de marché pour pouvoir mieux les anticiper et mieux les organiser et les orienter dans un sens que l'on souhaite. Les opérateurs, l'appareil de production français est très divisé, mais parce qu'on l'a laissé se diviser, parce que d'une certaine façon, la puissance publique ne s'est pas organisée pour que l'offre de mètres carrés puisse être portée par des opérateurs qui soient importants. Vous verrez demain, ICAD va parler beaucoup de collaboration avec la collectivité, parce qu'un gros a intérêt à rester dans le dialogue avec la collectivité. un petit promoteur qui fait un coup dans un secteur, et ben il va faire son coup, il va faire exploser le prix du foncier sur le secteur, et il n'y aura personne pour le retenir. Et l'organisation du dialogue avec ces opérateurs privés, elle passe d'abord par une connaissance de leurs règles du jeu et par la structuration de politiques. Là, j'ai conclu sur une analyse qui a été développée par Thierry Villemain, qui a produit, dont vous avez la référence de son ouvrage, hélas pas encore paru au CERTU, enfin déjà paru mais épuisé, pas encore paru au CERTU, mais qui écrit régulièrement dans l'étude foncière. Il a identifié qu'une collectivité, si elle prend les choses en main, elle peut tout à fait décider de produire son foncier avec des filières de la même façon, enfin des méthodes de production de la même façon que, je dirais, alors pour simplifier, qu'un industriel aura des méthodes de production pour produire au rythme qu'il souhaite produire, avec des objectifs qui sont les siens, le tout étant d'être conscient qu'on est producteur et pas que demandeur. Voilà, je vous remercie.